Chers amis, chers camarades, bonsoir et bienvenue à ce meeting de lutte ouvrière. Je vous demande de me lever parce qu'on ne me voit pas, c'est vrai que c'est ce que je disais. Donc avant de passer la parole d'abord à Jean-Marie Nomertin, puis à Jean-Pierre Mercier et enfin bien sûr à Nathalie Artaud, je vais vous présenter la tribune, mais juste avant, je vous demanderai de vérifier que vos portables sont bien éteints. Alors sur ma droite, Agathe Martin, qui est ouvrière dans l'automobile à l'usine de PSA Aulnay, en Seine-Saint-Denis. Juste à côté, Thierry Gonneau, ouvrier de l'automobile à l'usine Renault à Flins, dans les Yvelines. Et puis Aurélie Jochot, infirmière à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Jean-Marie Nomertin, qui milite à Combat Ouvrier, l'organisation communiste révolutionnaire des Antilles. Alors de l'autre côté, sur ma gauche, Eric Pecker, ouvrier de l'automobile chez Toyota, près de Valenciennes dans le Nord. Josépha Torres, technicienne de laboratoire dans l'industrie pharmaceutique chez Sanofi, à Vitry-sur-Seine. Jean-Pierre Mercier, ouvrier de l'automobile chez PSA, à l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Et bien sûr, à ma gauche, Nathalie Artaud. Moi-même, donc, Valérie Hamon, conductrice de train à la SNCF à Rennes. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Jean-Marie Nomertin de Combat Ouvrier.
Bien bonsoir à tous et à toutes. Je vous transmets les salutations des camarades de combat ouvrier de Martinique et de Guadeloupe. La crise financière et économique actuelle se fait aussi sensible en Martinique et en Guadeloupe. Bien des mots qui, avec l'aggravation de la crise, frappent les classes exploitées d'Europe. Nous les connaissons permanent ces Antilles. Nous avons toujours connu un chômage à 35%. Nous avons toujours connu un taux de chômage de jeunes pour ce qui est moins élevé et ces milliers de petits jobbers qui vivent de petits boulots à petits boulots. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, selon le ministère des Outre-mer, est de 60% en Martinique, 53% en Guadeloupe, contre chez vous, moins de 23%, ce qui est beaucoup. Mais à la crise de structure d'un système issu du colonialisme et de l'économie de plantation, vient s'ajouter la crise financière économique européenne et mondiale aujourd'hui. C'est la double peine en quelque sorte. Alors bien sûr, vous n'entendez pas comme en France parler aux Antilles de centaines ou des milliers de licenciements ou de suppression d'emplois comme ça de coup. Et pour la bonne raison, il n'y a pas d'entreprise qui concentre autant de milliers de travailleurs. Dans le passé, la classe ouvrière se confondait pour l'essentiel avec le prolétariat agricole, qui était concerné par les champs de canne, qui était concentré dans les champs de canne à sucre et dans les sucreries. Le nombre des salariés est à peu près de 110 000, aussi bien Guadeloupe et Martinique aujourd'hui, pour une population de 150 000 sur chaque territoire. Mais ils sont dispersés d'une série de petites, très petites entreprises, si bien que les licenciements ne sont pas spectaculaires. Mais vous savez, lorsque surviennent 5, 8, 10 licenciements ou suppression de postes, ça prend pour nous une dimension considérable. Au moment où je vous parle, il y a des salariés qui ne sont pas payés depuis 2-6 mois. Les travailleurs du groupe Sodexo, dans la restauration et dans les collèges, le lycée, n'ont pas été payés depuis juillet. Le groupe 4J, propriétaire des cliniques, s'apprête à vendre certaines de ces cliniques à un autre groupe réputé, Royou. Les quelques autres groupes qui ont le pied dans les Antilles, tels que Air France ou Air Caraïbes, s'apprêtent à licencier dans l'aérien. Dans l'hôtellerie, les sociétés prennent de plus en plus l'habitude de fermer leurs portes en licenciant les travailleurs après avoir, pendant les premières années, approché les subventions, après avoir profité vraiment de toutes sortes. Ou alors, elles revendent des hôtels, elles restent pour avoir une série de petits studios ou d'appartements privés. Dans la banane, beaucoup de plantations fermées, mettant ainsi plusieurs centaines de travailleurs sur le carreau en quelques années. C'est surtout dans le secteur public et parapublic que les effets les plus spectaculaires de la crise se font sentir. C'est là aussi qu'il y a une forte concentration de travailleurs. Dans les hôpitaux, à l'EDF, à la sécurité sociale, à la CAF et au niveau des collectivités, conseil général, conseil régional et des municipalités. Quant à la prime de vie chère de 40%, elle est fortement menacée. Nous rappelons qu'à l'origine, l'État avait institué cette prime pour inciter les fonctionnaires dits métropolitains à se rendre aux Antilles. C'était une prime coloniale et discriminatoire. Elle fut étendue aux fonctionnaires locaux à l'issue d'une grève interprofessionnelle mémorable de plus de 3 mois en 1952. Les employés municipaux ont dû se battre pour l'arracher aussi, pour l'obtenir, à coup de lutte et de grève. Certains salariés du privé ont aussi arraché par la lutte des 40% de richesse, notamment dans les banques, chez Nicolas Antique, à EDF, les ouvriers civils de l'État, les ouvriers civils du Parc National, la CAF et la Sécurité sociale. Mais depuis quelques temps, les nouveaux employés en CDD ou en CDI, notamment à la Poste et au France Télécom, ne l'aperçoivent plus. Ce n'est pas encore le cas dans l'enseignement, par exemple, mais les gouvernements de droite et de gauche cherchent par tous les moyens à rogner un peu à peu cette prime acquise de haute lutte. Quand on sait que le produit intérieur brut par habitant en Guadeloupe est de 18 000 euros, la suppression des 40% amènerait une dégradation du niveau de vie dans toute la classe ouvrière et entraînerait de fait la remise en cause du SMIC. Cela signifierait la division par deux, tant du niveau des salaires que du niveau de vie des classes exploitées. Dans les hôpitaux, comme en France, l'État veut réaliser des économies sur le dos des salariés et de la population. Certes, les hôpitaux sont très endettés, mais ce sera toujours le cas, tant qu'on aura à faire une gestion comptable de la santé publique. Or, pour nous, la santé n'a pas de prix. Actuellement, l'État veut fusionner 3 hôpitaux en Martinique. Cela va engendrer la suppression de 1140 emplois. Tout dernièrement, au Guadeloupe, le directeur du CHU a annoncé la couleur en disant que les salaires du mois d'octobre ne seront pas payés. L'administration vient de fermer 2 services à l'hôpital de l'île de Marie-Galante en Guadeloupe. L'État tente de masquer sa politique de restriction sous des expressions comme fusion, comme communauté hospitalière ou redéfinition de la carte de santé publique. Mais en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est tout simplement de supprimer les emplois dans les hôpitaux, comme dans toute la fonction publique. Les suppressions de postes sont programmées à la douane, 16, à la météo, 8. Au sein du personnel des collectivités publiques, les suppressions de postes aussi sont programmées. Et c'est lié à la réduction des dotations de l'État vis-à-vis de ces collectivités. La fusion prochaine des 2 collectivités, conseil général, conseil régional, entraînera la suppression de plus de 1000 postes, tant en Guadeloupe qu'en Martinique. Avec la crise, l'immigration vers la France, dite métropolitaine, n'est plus à même d'assurer un emploi stable et régulier, comme c'était malgré tout un peu le cas dans les années 60-70. à défaut de créer des emplois et de juguler la hausse des prix qui, en 2009, avait provoqué la révolte massive de la population, on nous a généreusement gratifié de deux ministres guadeloupéens et d'une ministre guyanaise. Qui plus est, Christiane Taubira a obtenu un ministère important, celui de la justice. Voilà donc la lot de consolation pour les peuples d'outre-mer. Mais ces ministres ont beau être issus de la minorité visible, leur volonté de changement maintenant est totalement invisible et inaudible pour les classes populaires. Hollande, comme la droite, avant lui, entend aller vers plus de décentralisation outre-mer. Cela peut aller dans les années qui viennent vers diverses modifications des institutions, de changements modérés jusqu'à une certaine autonomie à la carte sur les départements et territoires des Outre-mer. Mais il s'agit avant tout de désengagement de l'État sur le plan financier et budgétaire. Les gouvernements français de droite comme de gauche entretiennent ainsi l'illusion qu'ils tiennent compte de la méfiance largement partagée de la population vis-à-vis des mesures prises par des autorités éloignées de plus de 7000 km. C'est un habillage commode du désengagement de l'État pour ce qui est des dépenses indispensables pour répondre aux besoins de la population en matière de services publics. C'est aussi une façon de préparer le personnel politique local à faire accepter des sacrifices à la population. Victorin Lurel, l'actuel ministre des Outre-mer, est tout fier de nous déclarer que le budget outre-mer pour 2013 a augmenté de 5%. Mais ce budget a toujours été l'un des plus faibles de l'État français. 2 milliards le budget pour 2013, alors que celui de la défense dépasse largement les 30 milliards. 30 milliards en grande partie pour envoyer des troupes aux quatre coins du monde pour tenter de faire régner l'ordre impérialiste français. En Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Tchad, en Libye, et peut-être demain au Mali, dans le nord du Mali. Pendant ce temps, les grosses fortunes locales, c'est les gros béquets, continuent de prospérer comme le plus riche d'entre eux, Bernard Ayotte, actionnaire des magasins Carrefour et qui règne sur un empire, sur une multitude de sociétés, sur toutes les Antilles, voire même de la Caraïbe. Aux Antilles, ce ne sont pas les 100 familles qui dominent l'économie et qui exploitent les travailleurs, mais 8 familles de béquets et quelques grosses sociétés françaises. Leurs profits sont assurés. Pour vous donner un exemple, il a suffi d'un froncement de sourcils des patrons, en particulier des béquets, pour que le projet soi-disant de loi de Lurel contre la vie chère soit vidé de sa substance, substance qui n'était pas si consistante que ça. Les travailleurs et les classes pauvres doivent se serrer la ceinture, alors que les patrons, les riches, les classes aisées continuent de profiter des cadeaux de l'État. Ils continuent de profiter largement des subventions, des dégrèvements fiscaux et sociaux. Tout récemment, le gouvernement les a encore gratifiés du maintien d'une niche fiscale. La suppression de l'ancien plafonnement de réduction d'impôts pour les plus riches et les plus aisés ne s'appliquera pas en outre-mer. Or, de toutes les niches fiscales, c'est celle-là qui est la plus avantageuse pour les contribuables les plus riches. Les militants syndicalistes de la CGT et de la douane sont en train de se pencher sur le niveau des aides diverses et variées accordées au patronat. Il ressort déjà que cette manne représente 100% de leurs investissements, et sinon plus. Alors, s'il y a des assistés, ce n'est pas nous, ce sont que les assistés, et ce sont que les questions. Ce sont donc les plus riches, les patrons blancs, noirs, indiens, asiatiques, quelle que soit l'origine d'ailleurs, et y compris aussi plusieurs patrons français venus profiter des dégrèvements liés à un certain nombre de placements. Voilà, camarades, le tableau de la situation Martinique et Guadeloupe. Nous avons fait comme vous aussi lors des dernières élections campagne, avec les mots d'ordre tels que l'échelle mobile des salaires, la répartition du travail entre tous, le contrôle des travailleurs de l'économie et sur le communisme. Le communisme est le seul espoir sérieux pour l'humanité. Nous continuons à mettre ces mots d'ordre en avant, car en cette période de crise, c'est cela que les révolutionnaires prolétariens doivent mettre en avant. Comme les ouvrières, Combat ouvrier milite aussi pour la création des partis ouvriers révolutionnaires communistes sur ces deux bouts de terre, reste de l'ancien empire du colonial français. Mais comme nous le disions, dans notre manifeste, un petit caillou peut détourner le cours d'une grande rivière. Au-delà de la lutte quotidienne des travailleurs, pour ne pas faire les frais de la crise, militer pour la création d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire communiste est notre raison d'être et d'agir. Car le parti ouvrier révolutionnaire sera l'outil indispensable pour les travailleurs d'aller plus loin pour changer leur sort et changer le monde. Merci.
Maintenant, la parole à Jean-Pierre Mercier.
Camarades, je n'ai pas besoin de vous rappeler la situation qui est la nôtre à l'usine de PSA d'Aulnay. Nous savons tous ici que cette situation n'est pas spécifique à Peugeot, que cette entreprise ne représente pas un cas à part. Ce que nous vivons à Aulnay, c'est ce que des centaines de milliers de travailleurs vivent dans tout le pays, et je devrais même dire dans tous les pays. Et même aux travailleurs, qu'il n'a pas encore été annoncé que leur entreprise fermait ou supprimait toute une partie des emplois, savent bien qu'ils ne sont pas à l'abri. Dans ce capitalisme en crise, aucun travailleur n'est à l'abri. Et la peur du chômage, plus ou moins proche, plus ou moins concrète, est certainement le sentiment le plus largement partagé au sein du monde du travail aujourd'hui. Mais pour nous, que l'on soit travailleur du groupe PSA, de Sanofi, de Fralib, filiale d'Unilever, c'est-à-dire des trusts employant des centaines de milliers de salariés, ou d'entreprises plus petites comme Sodi Medical ou Roto 93, où l'on doit seulement à quelques dizaines essayer de faire face à une fermeture, eh bien la situation est la même. L'angoisse qui sert le ventre est la même, et les conséquences seront les mêmes si les entreprises ferment. Ce sera demain le chômage, après-demain peut-être le RSA et la misère. Alors, puisque tous les travailleurs sont frappés de la même façon, il faudra bien qu'ils contre-attaquent de la même façon et tous ensemble pour imposer purement et simplement l'interdiction de tous les licenciements. Il est vrai qu'à l'annonce du plan de licenciement de 8000 travailleurs dans le groupe PSA et de la fermeture de l'usine d'Aulnay, l'émotion a été importante dans l'opinion publique, à cause de l'importance de ce plan, bien sûr, à cause du fait que PSA est une entreprise milliardaire, et aussi à cause du fait qu'a éclaté, à la face de la population, le cynisme de ses patrons, leur facilité à mentir, sciemment, et à considérer qu'ils sont au-dessus de tout, y compris de la plus élémentaire honnêteté. Souvenez-vous, il y a maintenant 15 mois, lorsque la CGT de l'usine a publié le plan secret de Varin, annonçant dans les moindres détails la fermeture de l'usine. Souvenez-vous des mines offusquées des patrons, la main sur le cœur, à la télévision, devant la presse, devant les députés, devant les ministres. Nous, fermer Aulnay, jamais. Ce n'était qu'une hypothèse de travail, une hypothèse qui n'a pas été retenue, un scénario qui n'est pas à l'ordre du jour. Et pendant toute cette année, mois après mois, semaine après semaine, alors que nous, à l'usine, nous voyons bien qu'ils appliquaient inéluctablement leur plan à la lettre, eh bien ils continuaient de mentir, sans se démonter. Ils continuaient d'affirmer que la fermeture n'était pas à l'ordre du jour, jusqu'à ce jour du 12 juillet 2012, où d'un seul coup, la direction annonçait non seulement que l'usine d'Aulnay, avec ses 3600 travailleurs, serait fermée, mais qu'il y aurait au total 8000 suppressions d'emplois dans l'ensemble du groupe PSA, dont 1400 licenciements à l'usine de Rennes. S'il y a au moins une leçon à retenir de cet épisode, et ce n'est pas ça qui nous étonnera, c'est que la parole d'un patron, ça vaut strictement rien du tout. Commencer à faire confiance à une promesse de patron, c'est déjà poser la tête sur le bio. Et s'il y a une autre leçon bien plus générale à retenir, quelque chose qu'il n'est pas possible d'imposer dans le cadre d'une seule entreprise, c'est qu'il faut soumettre ces gens-là au contrôle des travailleurs et au contrôle de toute la population. Parce que la décision qu'ils viennent de prendre, au-delà des 8000 travailleurs et leurs familles, frappe aussi les travailleurs de tous les sous-traitants qui vivent des commandes de Peugeot. Et cette décision est encore plus dramatique en Seine-Saint-Denis, département déjà ravagé par le chômage, où PSA est la seule grande usine qui embauchait, car elle va toucher toute la population. Lorsque Varin a fait son annonce, Montebourg s'est agité quelque temps en répétant que le plan de licenciement était inacceptable en l'état, propos vaguement repris par Hollande lui-même. Mais si les travailleurs de Peugeot ont eu droit à quelques discours de compassion, le premier geste réel, concret du gouvernement, c'est la création d'un plan automobile offrant aux patrons des centaines de millions d'euros d'aides publiques supplémentaires sans leur demander la moindre contrepartie en termes de garantie du maintien de l'emploi. Depuis l'annonce du plan de licenciement, la direction de l'entreprise répète qu'elle n'avait pas le choix parce que les ventes de voitures baissent et que le marché d'automobile se rétrécit. Les ventes baissent, nous disent-ils ? Oui, un peu. Et elle baisse par rapport à quoi? Par rapport à des chiffres historiques, à des records absolus battus l'année dernière et l'année d'avant. Il n'y aurait plus de cash, comme ils disent. Mais du cash, il y en a eu assez pour que Peugeot éponge en un an la quasi-totalité de ses dettes, rembourse le prêt de 3 milliards et se paye, rien que pendant l'année 2011, pas moins de 44 entreprises qu'elle a rachetées. Vous imaginez un ménage qui dit ne plus gagner d'argent, ne plus avoir de rentrée, mais qui d'un seul coup, non seulement solde avec 15 ans d'avance le crédit sur sa maison, 3 ou 4 crédits à la consommation, et en plus, s'offre 3 ou 4 yachts pour faire bonne mesure. Eh bien, c'est dans cette situation qu'est la famille Peugeot. Et même comme ça, il en reste encore beaucoup dans les caisses de PSA, puisque Varin, le PDG, a avoué que l'entreprise était assise sur un matelas financier de 12 milliards d'euros. Pour ces ministres et ces députés, toutes tendances confondues, ce qui compte, ce n'est pas l'intérêt des travailleurs. Ce n'est pas ce que coûtera à la société tout entière la mise au chômage de milliers de travailleurs de PSA et des milliers de travailleurs chez les sous-traitants et les fournisseurs. Ce qui compte, c'est ce que veulent les patrons. C'est ce que veut la toute-puissante famille Peugeot. Et ce qu'elle veut, je le répète, ce n'est ni sauver l'entreprise, ni encore moins sauver les emplois et tous ses autres salariés comme elle ose le prétendre. Ce qu'elle veut, c'est augmenter ses profits. Et pour quoi faire? Pour investir? Pour construire de nouvelles usines, selon le principe répété jusqu'à la nausée par les socialistes des années 80, selon lesquels les profits d'aujourd'hui sont les emplois de demain? Allons donc. Même un enfant de 5 ans ne pourrait plus dans ses balivernes. Les profits, les dividendes déversés par centaines de millions pendant des décennies, la famille Peugeot les utilise en partie pour assurer son train de vie, et surtout pour spéculer. Lorsque les porte-voix de la famille Peugeot insistent sur ces difficultés dans l'automobile, ils mentent doublement. D'abord parce que le secteur automobile continue en réalité à lui dégager des bénéfices, mais aussi parce que la famille Peugeot a des actions dans bien d'autres secteurs que l'automobile. C'est ce que, en grand bourgeois qu'il est, Thierry Peugeot appelle, je cite, « des poires pour la soif ». Ces poires pour la soif, c'est 5% de la société d'autoroute Sanef, 25% du trust du nettoyage Honnet, des actions dans l'aéronautique, dans le groupe Zodiac, le petit électroménager Seb, les maisons de retraite Orpea, les sondages d'opinion Ipsos, et pour la bonne bouche, un petit vignoble de Sauterne, ça fait toujours du bien. Question liquidité. 114 millions d'euros dans un fonds de placement canadien qui ne peut servir qu'à la spéculation. À la radio, cette semaine, l'historien officiel de la famille Peugeot, Jean-Paul Loubet, expliquait avec des trémolos dans la voix que la famille, je cite, a toujours préféré l'entreprise à l'argent. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, tant les deux sont liés, mais tout de même, présenter cette famille d'exploiteurs comme une famille d'entrepreneurs aussi philanthropes que désintéressés, ça, c'est un peu fort. Rappelons tout de même que, indépendamment même des revenus de leurs capitaux, indépendamment de la fortune boursière qui se monte encore malgré la chute du titre à 1,3 milliard d'euros, indépendamment de la fortune personnelle amassée par la famille depuis 2 siècles, eh bien un Robert Peugeot, Bob, qui ne s'intéresse pas à l'argent donc, a touché en guise d'argent de poche en 2011, restez assis, 425 000 euros pour la présidence du conseil de surveillance de PSA, plus 90 000 euros de jetons de présence par réunion, près de 650 000 euros, j'en perds ma... pour la présidence de la holding financière FFP. Et comme cet homme-là aime peut-être plus l'entreprise que l'argent, mais qu'il préfère quand même les safaris en Afrique à l'entreprise, eh bien il a fallu encore augmenter le montant des jetons de présence de la FFP de 47 à 64 000 euros pour qu'il daigne se rendre un peu plus régulièrement aux réunions du conseil d'administration. Alors c'est pour ça que des milliers de travailleurs devraient être jetés à la rue, c'est pour ça qu'un département entier va se voir ravagé par le chômage. Eh bien non, il n'y a aucune raison de l'accepter et on ne l'acceptera jamais. La fermeture de l'usine Volney n'est pas fatale. Au sein même du groupe PSA, il est particulièrement évident que la seule solution de bon sens, la seule solution qui soit conforme aux intérêts des travailleurs et de toute la société, ce serait de répartir le travail et les productions entre toutes les usines, sans baisse de salaire évidemment. Jeter au chômage des milliers de travailleurs, d'un côté, et surcharger de travail les milliers d'autres qui resteront dans les usines, ne convient qu'aux intérêts des actionnaires. Dans l'ensemble des usines de PSA, la charge de travail augmente depuis des années. Sur les 7 dernières années, 20 000 emplois ont été supprimés alors que la production n'a pas cessé d'augmenter. Avec tout ce que cela signifie d'accélération du rythme des chaînes de production, de fatigue et d'usure supplémentaire pour les travailleurs. La direction explique que Peugeot est en surcapacité et que toutes les usines ne peuvent pas tourner. Peut-être ne peuvent-elles pas tourner à 100% de leur capacité. Mais elles peuvent très bien tourner à 70, 80%. Au lieu de faire tourner l'usine de Poissy, par exemple, à fond, jour et nuit, comme le fait PSA, il est tout à fait possible, techniquement, de répartir la production de C3 entre cette usine et celle d'Aulnay-sous-Bois. Au lieu d'imposer des cadences folles, des pauses de plus en plus limitées, il est tout à fait possible de baisser le rythme de travail. C'est l'intérêt vital de tous les ouvriers, c'est l'intérêt des sous-traitants, c'est l'intérêt de la population d'Aulnay et des villes alentours. Seul s'y oppose l'intérêt des actionnaires, à commencer par le milliardaire Peugeot. Alors tout ça, ça ne se réalisera que si les travailleurs ont la force de l'imposer. Évidemment, merci Thomas. Évidemment, la répartition du travail entre tous, sans diminuer les salaires, cela demande un financement. Mais l'entreprise a de quoi y faire face avec ses 12 milliards de trésorerie. Et même si elle ne le pouvait pas, derrière l'entreprise, il y a la fortune personnelle des actionnaires et leurs milliards accumulés. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y toucher. Nous, les travailleurs, si on est licencié, on perd tout. Si les actionnaires finançaient le maintien de l'emploi, il leur en resterait suffisamment pour leur safari en Afrique. Alors, ils doivent payer, un point c'est tout. Mais jamais la famille Peugeot n'acceptera cela de son plein gré, et bien sûr, jamais le gouvernement ne lui imposera. Alors nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes, sur notre force collective. À nous tout seuls, à Aulnay, nous n'avons sans doute pas la force d'imposer la répartition du travail et d'empêcher la fermeture d'une usine. Mais si on devait nous obliger à vendre notre peau, eh bien nous la vendrons la plus chère possible, ça c'est garanti. Je le disais tout à l'heure, le KPSA n'est pas un cas à part. Dans une seule entreprise, même si elle regroupe encore des milliers de salariés, on ne peut pas gagner des batailles décisives contre le patronat. Oui, il faudra une lutte d'ensemble, une explosion collective où toute la colère accumulée en silence depuis des années sortira. Seule une telle lutte, du niveau de la grève générale de mai-juin 1936, pourra faire suffisamment peur au patronat et à l'État pour que soient enfin à l'ordre du jour les seules mesures qui peuvent sauver le monde du travail de la chute dans la misère, la répartition du travail entre tous et l'interdiction de tous les licenciements. Alors nous sommes conscients que nous ne sommes pas encore dans cette situation. Mais pour ce qui nous concerne, nous, travailleurs de PSA, nous ferons tout pour que la direction ne parvienne pas à exécuter complètement son plan. Nous ferons tout pour qu'aucun d'entre nous se retrouve à faire la queue à Pôle emploi. Nous espérons, nous souhaitons, si nous parvenons à nous défendre et à imposer à la direction un certain nombre de garanties, que notre lutte fasse tache d'huile. Toutes les grandes luttes de la classe ouvrière dans le passé ont forcément commencé grâce à quelques-uns qui, par conscience ou bien plus souvent, poussés par la nécessité, ont été amenés à se battre. Et nous savons qu'en nous défendant, en défendant notre droit légitime à un emploi et à un salaire, eh bien nous nous battons pour un objectif qui concerne en réalité, bien au-delà des murs de l'usine Zolnay, l'ensemble du monde du travail. Alors camarades, courage et la force des travailleurs, c'est la grève.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. C'est la première rentrée sous un gouvernement socialiste depuis 10 ans. Mais elle ressemble comme deux gouttes d'eau aux 10 rentrées précédentes. Augmentation du prix du gaz, fermeture d'usines et menaces de licenciement, conditions de travail de plus en plus dures. Il y a 5 mois, pour se faire élire, Hollande disait « Le changement, c'est maintenant ». Eh bien voilà qui nous explique aujourd'hui que le changement n'est pas pour tout de suite et qu'il va falloir attendre au moins 2 ans pour que le pays se redresse. Le voilà qui nous explique qu'il faudra 2 ans d'efforts et de sacrifices avant d'envisager quelques progrès que ce soit, parce que c'est la crise, que les déficits sont insoutenables et qu'il faut rembourser la dette. C'est la répétition, au mot près, des discours et de la politique de la droite. La semaine dernière, le gouvernement a présenté pour le budget 2013 un plan d'austérité de 30 milliards d'économies, avec des augmentations d'impôts d'un côté, et des restrictions dans les dépenses publiques de l'autre. C'est un plan de rigueur qui n'a rien à envier à ceux de Sarkozy-Fillon. Et tout l'art du gouvernement consiste à faire passer des attaques contre les travailleurs pour une politique de gauche. Hérault, en mentor professionnel, a déclaré que 9 Français sur 10 ne sont pas concernés par les nouvelles mesures concernant l'impôt sur le revenu. Sauf que les 3/4 des contribuables verront leur impôt sur le revenu augmenter par le gel du barème qui a été décidé par le gouvernement précédent et que les socialistes maintiennent. Hérault n'a pas menti puisqu'il ne parlait que des nouvelles mesures. Il s'est juste un peu arrangé avec la réalité. Arrangement avec la réalité aussi quand il a omis d'annoncer que pour boucler le budget de la sécurité sociale, la redevance télé sera augmentée de 4 euros et qu'il y aura une nouvelle taxe de 0,15% pour tous les retraités imposables, les mêmes retraités dont il disait qu'ils ne seraient pas touchés. Alors oui, les impôts augmenteront et pas que pour les riches. L'augmentation du prix du tabac et des bières qui rapportera 4 à 5 fois plus que la fameuse taxe de 75% sur la tranche de revenus qui dépasse le million d'euros sont là pour nous le rappeler tous les jours. Quant aux restrictions qui seront faites sur les hôpitaux, les crèches, l'école, sur les transports, les prestations sociales, bien sûr qu'elles affecteront en premier lieu les familles populaires, sans parler des travailleurs de la fonction publique qui verront encore leur salaire bloqué. Le gouvernement monte en épingle l'augmentation des impôts des plus riches. C'est de l'enfumage. Bien sûr, la droite et la bourgeoisie crient à la spoliation, mais c'est le cinéma politicien. Que Bernard Arnault, la première fortune du pays, menace de prendre la nationalité belge pour échapper au fisc, témoigne surtout de son arrogance et de son ingratitude vis-à-vis de politiques qui se sont toujours très bien occupés de ses affaires. C'est Fabius qui lui a mis le pied à l'étrier dans les années 1980 en lui permettant de racheter pour 1 franc symbolique l'ex-empire Boussac et le petit bijou que représentait la marque Dior. Eh bien oui, la grande bourgeoisie n'a même pas la reconnaissance du ventre. Elle est habituée à ce qu'on la serve et il ne faut surtout rien lui demander. Au fond, la provocation d'Arnault a un avantage pour Hollande. Elle fait passer la taxation de 75% pour un geste de gauche. Et même si cette mesure ne rapportera presque rien aux caisses de l'État, elle excite les ténors de la droite et c'est bien la seule mesure qui peut faire illusion. Car souvenez-vous que la tranche d'impôt sur le revenu que le gouvernement relève aujourd'hui à 45% était de 48% il n'y a pas si longtemps sous Raffarin et de 60% sous Giscard. Quant à l'impôt sur les sociétés, que le gouvernement maintient à 30% pour les grandes entreprises, il était de 50% sous Giscard. Alors, que la grande réforme fiscale de la gauche soit en deçà de ce qui existait sous Giscard, montre que la gauche est tombée bien bas. Mais cela n'empêche pas le patronat d'attaquer le gouvernement, d'autant plus facilement qu'il est de gauche, et que le patronat petit, grand, sait qu'il sera relayé par la droite dans l'opposition. Laurence Parisot, cette semaine, a poussé des hauts cris en dénonçant le racisme anti-patron. Et les grands médias font défiler économistes et experts en tout genre pour dénoncer le danger qu'il y aurait à taxer davantage les entreprises et leurs propriétaires. Voyez de quelle complaisance a bénéficié la fronde qui s'est manifestée sur Internet sous le nom de Pigeon. Oh, ces patrons de start-up, en particulier de l'informatique, ne sont certainement pas les grands fauves du capitalisme. Ce ne sont pas les actionnaires principaux des entreprises du CAC 40. Mais ils ne sont pas vraiment à plaindre, ces patrons qui gagnent leur vie en créant des entreprises et en les revendant avec un bénéfice confortable. Le journal Libération d'aujourd'hui en cite 3. 2 qui viennent de revendre leur entreprise, respectivement pour 70 et 182 millions. Et en 3e, plus malin, qui avant de revendre la sienne à 475 millions, a eu la sagesse de s'installer en Suisse. Eh bien, le gouvernement envisageait simplement de taxer la plus-value réalisée sur ces opérations au même niveau que l'impôt sur le revenu des salariés. et tout ce beau monde d'entrepreneurs de pétitionner contre cette injustice. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps, à peine quelques jours, pour que le gouvernement craque et recule piteusement. Mercredi, à l'Assemblée nationale, Moscovici, le ministre de l'économie, a déclaré « Vous ne nous prendrez pas en défaut en matière d'esprit d'entreprise ». Jeudi, il a annoncé, au lieu de la hausse prévue, une exonération totale de la taxe si la plus-value réalisée sur la cession d'entreprise était réinvestie. Eh bien, le gouvernement ne pouvait pas s'aplatir davantage. J'ai prévenu dans la campagne présidentielle que la perspective d'un bon gouvernement de gauche était un leurre pour les travailleurs. Nous avons dit et répété, je cite, « Au fur et à mesure que la crise s'aggrave, la férocité de la bourgeoisie grandit et il y a de moins en moins de place pour un bon gouvernement de gauche qui, au moins partiellement, protégerait les travailleurs. Il n'y aura que des gouvernements de combat de la bourgeoisie. » Eh bien, ce gouvernement de combat porte aujourd'hui l'étiquette socialiste. Hollande lui-même a parlé de budget de combat. Eh bien oui, c'est un budget de combat, mais un combat contre les travailleurs à qui il veut faire payer la crise. Alors ce n'est pas parce que ce gouvernement est estampillé socialiste que les travailleurs doivent se laisser faire. Sarkozy, oui, on peut parler de continuité. Regardez ce qui se passe avec le traité budgétaire européen qui consiste en substance à inscrire dans la loi l'obligation pour tous les États d'Europe de ne pas dépasser un certain niveau de déficit. C'est Sarkozy qui a voulu et qui a négocié avec Merkel ce traité, mais c'est Hollande qui termine le boulot. Sans en avoir changé une virgule, Hollande demande au Parlement de le ratifier, alors même qu'il a fait toute sa campagne contre ce traité. Il est assez cocasse de voir aujourd'hui les socialistes qui n'ont eu de cesse de dénoncer la règle d'or en vanter les mérites aussi bien que ne faisaient Fillon et ses amis. La situation est d'autant plus comique que la droite apparaît dans cette affaire comme la meilleure alliée de Hollande, puisque dans son écrasante majorité, elle s'apprête à voter en faveur du traité Sarkozy-Hollande. À gauche, au contraire, cette ratification divise jusqu'au sein même du Parti socialiste. Pour certains députés socialistes, le reniement est trop gros et pour préserver leur carrière, ils préfèrent s'abstenir, voire voter contre ce traité. Quant aux écologistes, ils se préparent à voter contre, ce qui impose à ces deux ministres cramponnés à leur fauteuil une gymnastique un peu compliquée. Et après cela, ces gens-là nous expliqueront que la politique n'est pas une question d'opportunisme, ni de carrière personnelle, mais un pur combat d'idées. Quant à Mélenchon et le Parti communiste, ils sont partis en guerre contre ce traité. Ils mènent depuis la rentrée une intense campagne pour dénoncer l'austérité à perpétuité et la perte de souveraineté nationale. Mais en quoi l'État français, tout national qu'il est, a-t-il protégé ou servi les intérêts des travailleurs? Et comme s'il fallait ce traité pour que l'austérité soit imposée, cela fait plus de 4 ans que tous les gouvernements européens étranglent leur peuple, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, ici en France, avec le gouvernement Sarkozy-Fillon. Et pour concocter leur plan drastique, Hollande et Euro n'ont pas eu besoin des conseils de Merkel, ni des prescriptions d'un traité européen qui, de toute façon, n'est pas encore rentré en application. Quant au projet de revenir à l'équilibre en 2017, c'est-à-dire à zéro déficit, ce n'est absolument pas une exigence du traité, c'est une initiative franco-française, très originale, du gouvernement Hollande. Il n'y a bien sûr rien de bon pour les travailleurs dans ce traité. Comme tous ceux qui ont jalonné la construction européenne, ce traité répond aux desiderata des financiers et du grand capital. Et si nous avions à le voter, nous voterions contre. Mais laissez croire que l'austérité et les coups qui nous tombent dessus viennent de Bruxelles, de l'Europe ou de Merkel est une diversion. Mélenchon. Mélenchon et les dirigeants du Parti communiste ont expliqué que la manifestation organisée dimanche dernier n'était pas une manifestation anti-Hollande. Mais qui vient de décider les hausses d'impôts si ce n'est Hollande? C'est Hollande qui vient d'imposer de nouvelles privations aux classes populaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce radicalisme qui dédouane les responsables que l'on a en face de nous? Ce n'est pas pour rien que Mélenchon, comme le Parti communiste ou flanqué de quelques autres, ont choisi pour cible de la première manifestation depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir le traité européen. C'est le terrain sur lequel il gêne le moins le gouvernement, parce qu'il est assuré d'avoir la majorité au Parlement, ne serait-ce que grâce aux voix de la droite. Et surtout, le mot d'ordre de se mobiliser pour un simple référendum ne pouvait pas toucher le monde du travail, et encore moins lui donner les objectifs et les moyens de se battre. Mais ce n'est pas le but de Mélenchon, ni du Parti communiste. Leur seule préoccupation est de canaliser à leur profit les déçus du socialisme, ceux qui ont été assez naïfs pour croire que Hollande et les siens pendant la campagne, et qui aujourd'hui se sentent floués. Mélenchon ne s'en cache d'ailleurs pas. Son ambition est, comme il dit, d'offrir une alternative à gauche, ou pour le dire plus vulgairement, de prendre la place de l'équipe au pouvoir dès qu'elle se sera déconsidérée et ne pourra plus servir à la bourgeoisie. Quant au Parti communiste, comme le répètent ses dirigeants, il ne veut pas être tenu pour responsable de l'échec du gouvernement de gauche, mais il veut montrer qu'il a une certaine capacité de mobilisation. En d'autres termes, sa posture d'opposant n'est qu'une offre de service déguisée. Tout le débat à propos de ce traité est un faux débat, une tromperie pour les travailleurs. D'un côté, il y a les défenseurs du traité, les tenants de l'orthodoxie budgétaire, de la réduction des déficits, qui brandissent l'endettement de l'État pour justifier l'austérité. De l'autre, les opposants au traité, qui prônent un niveau plus important de déficit et d'endettement au nom de la politique de relance. À les croire, il y aurait d'un côté une politique libérale pro-patronale, et de l'autre, la vraie politique de gauche favorable aux travailleurs. Dans la réalité, ces deux politiques coexistent, mais surtout, aucune de ces politiques ne représente les intérêts des travailleurs. Car le problème des travailleurs n'est pas le montant du déficit budgétaire, mais qui le paye, les classes pauvres ou la bourgeoisie? Si le gouvernement pense qu'il est urgent, et impératif de rembourser la dette, eh bien qu'il le fasse. Mais en demandant à ceux qui l'ont contracté de payer. Parce que cette dette, eh bien, elle a été faite au profit des banquiers, des entreprises capitalistes, qui ont eu droit à des subventions en tout genre. Pour sauver la filière automobile et empêcher les licenciements, les groupes de l'automobile ont eu droit à des milliards. Avec le succès que l'on sait aujourd'hui, quand on constate avec quelle violence le groupe PSA tranche dans les effectifs. Et puis il y a eu aussi les cadeaux fiscaux que Sarkozy a fait aux plus riches. Puisque le gouvernement nous dit que la dette et les déficits sont devenus insoutenables, eh bien qu'il demande à ceux qui en ont profité de rembourser. Et ce n'est quand même pas nous qui allons effacer la dette du patronat. Alors oui, que l'on supprime toute aide, toute subvention, tout dégrèvement à la classe capitaliste et le budget sera largement bénéficiaire. Oui à la politique d'austérité, mais contre les seuls riches, que l'on impose l'austérité au grand patronat. Il n'y a pas qu'en matière budgétaire que la gauche s'inspire de la droite, de sa politique et de ses discours. Prenez les ministres de l'Intérieur. de droite ou de gauche, ils se suivent et ils se ressemblent tous. Manuel Valls se vante, comme Sarkozy, de vouloir faire carrière comme premier flic de France. Au cœur de l'été, Valls a multiplié, comme Sarkozy, les discours sécuritaires et les déplacements coup de poing très médiatisés dans les zones urbaines vite sensibles. Cette semaine encore, il l'a fait à Grenoble, accompagné cette fois de Hollande. Alors que le Parti Socialiste dénonçait la politique de la droite vis-à-vis des Roms, en réclamant une solution de relogement pour chaque camp démantelé, le gouvernement détruit et expulse, comme sous Sarkozy. Rien qu'entre mai et août, il y aurait eu 3000 expulsions de Roms. Peu importe que les Roms expulsés reviennent et que leur nombre en France soit en fait constant depuis 20 ans, il s'agit de faire de la démagogie sécuritaire et xénophobe. En expulsant ces familles et en détruisant leurs quelques biens, caravanes ou tentes, Manuel Valls a eu le cynisme d'invoquer l'intérêt des Roms. Il a parlé même de devoir moral pour le militant de gauche qu'il est de mettre fin aux bidonvilles et aux conditions inhumaines de ces camps. Alors rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui, certains habitants se croient autorisés à détruire eux-mêmes un campement. En 1981 et en 1997, le Parti Socialiste avait au moins régularisé quelques dizaines de milliers de sans-papiers qui vivaient et travaillaient en France depuis des années. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Valls ne veut pas faire moins que Hortefeux ou Guéant. Il expulsera autant que ses prédécesseurs. Quant au droit de vote des étrangers aux élections locales, il figurait au programme du candidat Mitterrand en 1981, dans celui de la gauche plurielle en 1997 et dans celui de Hollande en 2012. Oh, la promesse est bien maigre. Le vote ne serait accordé qu'aux élections municipales, après 5 ans de résidence en situation régulière, et sans possibilité d'être maire ou adjoint au maire. Eh bien, même là-dessus, il n'est même pas sûr que le Parti Socialiste aille jusqu'au bout de son engagement. Valls, par exemple, milite ouvertement pour enterrer cette promesse. Eh bien, c'est honteux. Que des travailleurs qui enrichissent le pays payent des impôts et des cotisations n'aient pas le droit de vote à toutes les élections est un déni de droit. Mais ceux qui nous gouvernent peuvent refuser aux travailleurs immigrés le droit. Ceux qui nous gouvernent peuvent refuser aux travailleurs immigrés le droit de se faire entendre dans les élections, mais ils ne pourront pas empêcher ces travailleurs qui sont nombreux sur les chaînes de production, sur les chantiers et qui sont indispensables à la bonne marche de la société de s'exprimer dans les luttes futures de la classe ouvrière et ce sera autrement plus efficace. En imitant la droite, le gouvernement va en faire le jeu. Mais ce ne sera pas l'UMP qui subit le discrédit de 10 années de pouvoir qui tirera les marrons du feu. Ce sera Le Pen, forte déjà des bons résultats du Front National aux élections présidentielles et législatives. Le Pen espère bien en tirer profit pour devenir la chef de file de l'opposition. Parviendra-t-elle? L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que ce courant qu'elle incarne représente un poison pour les travailleurs. Les Le Pen, père et fille, ont fait des préjugés les plus réactionnaires contre les étrangers, les musulmans, les Roms, les chômeurs, bref, tout ce qui peut diviser les travailleurs, leur fonds de commerce. Même sans qu'ils soient au pouvoir, le Front National pèse sur la vie politique. On le voyait par la politique des Sarkozy, Guéant et Hortefeux. On le voit dans les propos orduriers d'un Copé qui stigmatise le racisme anti-blanc. Mais la politique de Hollande et de Valls porte aussi l'influence de Le Pen. Dans le domaine économique, il n'y a pas à s'étonner que le gouvernement Hollande soit dans la continuité de Sarkozy. Dans cette société capitaliste dominée par l'argent et par le pouvoir des grands groupes financiers, les gouvernements sont et ne peuvent être que des conseils d'administration des intérêts de la bourgeoisie. Ce n'est pas seulement une question de courage des hommes politiques, ni même de lien personnel avec la classe capitaliste. C'est tout l'appareil d'État, toute la hiérarchie des hauts fonctionnaires qui est profondément liée à la grande bourgeoisie, formée et dressée pour être à son service. Mais sur les questions dites sociétales, les dirigeants socialistes se distinguent bien souvent par leur lâcheté et par leur veulerie. Car ce ne sont pas les pressions de la bourgeoisie qui forcent le gouvernement à chasser les Roms. Et on ne peut même pas dire que le droit de vote des immigrés la préoccupe particulièrement. Non, l'équipe socialiste recule vis-à-vis de leurs adversaires politiques de droite. Il suffit que les milieux réactionnaires donnent de la voix pour que la gauche bien pensante s'aligne et bien saisir leur manque de courage et leur couardise. Les travailleurs doivent se battre sur leur terrain de classe, préserver son emploi et son salaire est LA question vitale pour les travailleurs. La barre des 3 millions de chômeurs officiels vient d'être dépassée. Dans la réalité, il y a près de 5,5 millions de personnes sans emploi et sans salaire stable. Il n'y a pas un travailleur qui n'est dans sa famille ou parmi ses proches, quelqu'un qui se retrouve dans cette situation. Il n'y a pas un seul travailleur qui puisse être sûr d'être à l'abri du chômage. Aucune région, aucun département, aucune ville n'échappe à l'hémorragie. Les suppressions d'emplois sont programmées chez Air France, Carrefour, Peugeot, Technicolor, Sanofi, Conforama et bien d'autres encore. Et que fait le gouvernement? Il laisse faire. Cette semaine, le coup près est tombé pour l'acierie de Florange. Le PDG d'ArcelorMittal a confirmé qu'il fermera bien les deux hauts fourneaux. Quand bien même un expert a déclaré le site tout à fait viable, quand bien même le groupe a profité, profite encore d'une multitude de subventions, quand bien même Hollande et Montebourg ont supplié Mittal, il ne reviendra pas sur sa décision de fermer les hauts fourneaux de Florange. Et même si le gouvernement, avec Montebourg en première ligne, s'agite encore pour faire croire à un repreneur, de l'avis même des travailleurs de Florange, c'est illusoire. Sarkozy a fermé Gondrange, Hollande va fermer Florange. Sous la gauche comme sous la droite, le grand patronat fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, parce que le Parti socialiste lui laisse les mains libres. Les socialistes au pouvoir n'imaginent pas une seconde avoir une politique contraignante vis-à-vis du grand patronat. Ils ne veulent le forcer à rien, rien lui interdire. Ils ne veulent rien faire qui puisse le gêner. Alors, ils sont voués à l'impuissance. Mais c'est une impuissance choisie et voulue. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Oh, être contraignant vis-à-vis des travailleurs, ça, ils savent faire. Tout peut être imposé aux travailleurs. Leur formation, leur métier, leurs horaires. On peut imposer aux travailleurs de changer de poste, de ville, de région. Dans l'entreprise, c'est le règne de la contrainte. Interdiction de faire ceci, obligation de faire cela. Et on peut licencier les travailleurs, les priver de salaire, de ce qu'ils ont de plus précieux, quand bien même c'est toute leur vie qui en dépend. Eh bien, un gouvernement des travailleurs, au service des travailleurs, ferait l'inverse. Oui, un gouvernement dans le camp des travailleurs empêcherait la fermeture d'ArcelorMittal. Il pourrait. Un gouvernement dans le camp des travailleurs pourrait interdire à Mittal de licencier et le forcer à garantir sur le site même les emplois et les salaires de tous, ouvriers et intérimaires compris, sous peine de supprimer toutes les subventions qu'il touche dans le pays. Il pourrait aussi forcer Mittal à continuer l'activité, sous peine de réquisition. Parce qu'un gouvernement qui serait dans le camp des travailleurs pourrait décider d'exproprier Mittal, c'est-à-dire de réquisitionner le site pour continuer de le faire tourner. Dans cette période de crise, alors que les grands groupes comme ArcelorMittal, Peugeot Citroën, Sanofi, Unilever sont responsables du chômage et de la désolation de régions entières, il faut les empêcher de nuire. Il faut leur imposer une politique coercitive. il faut les contraindre à prendre sur les profits pour sauver les emplois et verser des salaires. Pour cela, il faut contester le pouvoir qu'ils ont sur les entreprises. Il faut être prêt à contester le monopole de la propriété capitaliste. Il faut être prêt à exproprier pour de bon les grands groupes capitalistes et les banques, c'est-à-dire sans indemnité ni rachat. En ce qui concerne ArcelorMittal, Montebourg a rejeté catégoriquement toute idée de nationalisation. Eh bien, c'est une façon de se laver les mains par avance du sort des ouvriers de Florange. Et cela montre que les socialistes sont vendus corps et âme à la bourgeoisie. Oh, ce n'est pas nouveau. Et l'abandon par le Parti socialiste de l'idéal socialiste remonte à très loin. Mais faut-il rappeler que le courant socialiste est né de l'idée qu'il fallait enlever la propriété privée des entreprises des mains des capitalistes et la gérer collectivement? Faut-il rappeler que les premiers socialistes se sont battus pour démontrer qu'il était tout à fait possible de se passer de ce patronat parasite et que les travailleurs collectivement étaient bien plus capables d'organiser la production? Les communistes révolutionnaires que nous sommes ont toujours critiqué les nationalisations lorsqu'elles étaient faites, non pour s'attaquer à la bourgeoisie, mais pour venir à son secours, comme cela a été le cas sous De Gaulle après la guerre ou sous Mitterrand après 1981. Les nationalisations de Mitterrand ont sauvé la mise à pas mal d'actionnaires, à commencer justement par la nationalisation d'Usinor Sassilor, l'ancêtre d'ArcelorMittal, qui a permis à la dynastie Vandel de retirer ses capitaux d'un secteur frappé par la crise pour se reconvertir dans la finance et la spéculation. Alors, aux nationalisations qui rapportent aux capitalistes, nous avons toujours opposé l'expropriation, sans indemnité ni rachat. Mais aujourd'hui, Montebourg enterre l'idée même de nationaliser une entreprise privée que son propriétaire est en train de liquider. L'État n'a pas d'argent et l'État n'a jamais été un bon gestionnaire, a-t-il dit. Rajoutant que l'État ne sait ni produire ni vendre de l'acier. Il nous explique donc que l'État ne saurait pas faire. Mais ce n'est pas Mittal qui sait produire et vendre de l'acier. Ce sont les travailleurs. Tout ce que Mittal sait produire, lui, ce sont des profits. Ce sont des profits, en rentabilisant au maximum ses installations, en pressurant les travailleurs et en pillant toutes les subventions qu'il a pu. Et pourquoi faudrait-il racheter le site à Mittal? De l'aveu même des dirigeants, le site est secondaire dans l'empire d'acier d'ArcelorMittal. Les actionnaires en ont tiré des profits colossaux pendant des années. Eh bien, cela devrait suffire. Montebourg et ses idées et ses amis, Montebourg et ses amis ont renié depuis bien longtemps l'idéal socialiste. Mais tant que le capitalisme dominera, avec son cortège d'inégalités, d'injustices et de ravages, ces idées vivront. On le voit dans la crise. Les capitalistes sont des irresponsables. On ne peut pas les laisser diriger l'économie. Ils l'emmènent dans le mur. Les exproprier est une nécessité. Personne ne maîtrise la crise actuelle de l'économie capitaliste. Ni les capitalistes eux-mêmes, ni les banquiers, et encore moins leurs serviteurs, fussent-ils dirigeants d'État. Ils le savent eux-mêmes, et leurs discours rassurants à l'attention des populations ne sont que rideaux de fumée. La crise a déclenché un saut qui peut général. Le capitalisme est une guerre économique permanente, mais la crise la porte à un niveau sans précédent. Ce qui est une catastrophe pour les populations est en même temps une aubaine pour les groupes capitalistes les plus puissants, qui en profitent pour avaler leurs concurrents et pour s'agrandir. C'est la guerre entre capitalistes d'un même secteur, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, entre agriculteurs et grandes distributions. Une guerre où les gros mangent les petits. Dans cette jungle économique, chacun se bat pour sauver sa peau au détriment des autres. Mais dans cette guerre de tous contre tous, c'est la guerre de classe qui prédomine. Parce que c'est en dernier ressort sur le dos des travailleurs qu'ils peuvent tous, gros comme petits, récupérer les profits qu'ils perdent dans la guerre économique. Au bout du bout, il y a un intérimaire ou un CDD qu'on peut renvoyer, des travailleurs que l'on peut mettre sous pression pour qu'ils ne comptent pas leurs heures, pour qu'ils acceptent n'importe quel horaire, pour qu'ils fassent le travail de deux. Et quand cela ne suffit pas au patron pour être compétitif, comme ils disent, ils taillent dans le vif, réduisent les effectifs ou ferment une usine. Cette compétitivité dont on nous rebat les oreilles est l'expression de la concurrence, de la guerre entre capitalistes pour se disputer des marchés et le profit qui va avec. Mais cette guerre, ils la mènent avec la peau des travailleurs. Eh bien, dans cette guerre, les travailleurs n'ont pas à servir de chair à canon. Ils doivent mener leur propre combat pour défendre leur emploi et le pouvoir d'achat de leur salaire. La compétitivité a toujours été l'argument massu du patronat, généralement pour abaisser les salaires directs ou ces salaires indirects que sont les cotisations sociales. Ces jours-ci, le gouvernement a repris à son compte le discours patronal et il se creuse pour savoir comment il va alléger de 40 milliards la facture des patrons en les transférant sur d'autres impôts. La question qui se pose est de savoir comment, sous quelle forme, le gouvernement nous volera ces 40 milliards. Mais il n'y a aucun doute à avoir. Le gouvernement veut les prendre et il les prendra, sauf si les travailleurs, collectivement, par leur lutte, en décident autrement. Si les socialistes jouent la comédie de la conférence sociale et de la négociation entre partenaires sociaux, s'ils nous amusent avec le conte de fées du gagnant-gagnant, c'est que dans cette lutte de classe, ils ne veulent et ne peuvent pas être dans le camp des travailleurs parce qu'ils veulent servir le patronat. Alors, nous devons en être conscients. Rien ne permet d'espérer que la crise soit en train de se résorber. Peut-être même, le pire est-il encore à venir et nous n'avons encore rien vu. Dans cette guerre, si nous ne voulons pas être piétinés, si nous ne voulons pas voir notre salaire ou notre retraite divisé par deux comme en Grèce, si nous ne voulons pas nous retrouver sans boulot et à devoir aller toujours plus nombreux à la soupe populaire, comme en Grèce ou en Espagne, il va falloir se battre avec nos propres armes de classe, les grèves et les manifestations. Dans cette période de crise, où il y a 1000 chômeurs supplémentaires chaque jour, et où, lorsqu'on est poussé au chômage, on sait que l'on risque d'y rester longtemps, imposer l'interdiction des licenciements est une mesure vitale, la seule mesure efficace pour stopper l'hémorragie. Même si la production industrielle est en recul, la majorité des usines continuent de tourner, du travail, il y en a. La seule politique juste, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, est d'imposer que ce travail soit réparti entre tous sans diminution de salaire. Mon camarade Jean-Pierre vient de montrer, en parlant de Peugeot Citroën, à quel point le choix de répartir le travail entre tous sans licencier personne est tout à fait possible à l'intérieur même du groupe. Alors bien sûr, répartir le travail entre tous, cela fera baisser la rentabilité des groupes capitalistes. Cela leur coûtera de l'argent et cela leur posera quelques problèmes. Et alors, quand les travailleurs se retrouvent au chômage, ils ne font pas que perdre de l'argent. C'est toute leur vie qui est bouleversée. La maison, l'appartement qu'on ne peut plus payer, c'est la spirale infernale de l'endettement. Les études des enfants qui sont remises en cause, c'est C'est une question de survie quotidienne. Alors oui, c'est aux capitalistes d'assumer les pertes sur leurs profits et au besoin sur leur fortune privée. C'est aux groupes richissimes, qui dorment souvent sur des montagnes de cash et qui ont des réserves, de trouver l'argent pour préserver les emplois. Et si cela ne suffit pas, que les actionnaires payent. Quand les affaires marchaient bien, ce ne sont pas les travailleurs qui se sont enrichis, mais les grands actionnaires. Ils ont accumulé des fortunes au travers de l'exploitation. Ces fortunes, elles existent. Elles sont dans des coffres-forts belges ou suisses. Elles sont transformées en lingots d'or, en yachts de luxe ou en maisons secondaires, mais elles existent. Eh bien, il faut puiser dedans pour maintenir les emplois et les salaires. Les travailleurs ont un droit sur cet argent. C'est eux qui l'ont sué. Il est normal, légitime, que dans cette période de crise, ils servent à leur assurer un salaire. Des confédérations syndicales. Je parle des directions centrales, des appareils syndicaux, pas des militants des syndicats qui mènent sur le terrain un combat difficile et parfois désespéré contre des licenciements ou contre la fermeture de leur usine. Leur combat est d'autant plus difficile qu'il est mené entreprise par entreprise, isolées les unes des autres, et surtout dans un rapport de force défavorable aux travailleurs, avec d'un côté un patron fort de ses capitaux, voire une multinationale, et de l'autre, des travailleurs dont le patron n'a plus besoin et dont il veut se débarrasser. Eh bien, les confédérations syndicales, même la plus combative, n'ont pas de plan de lutte, de stratégie s'adressant à l'ensemble des travailleurs. Oh, un tel plan de lutte, même avec les objectifs indispensables, ne suffit pas pour redonner confiance aux travailleurs au point de les mobiliser. Les chefs syndicaux le disent et le répètent, on ne peut pas déclencher de grandes luttes en appuyant sur un bouton. C'est incontestable. Mais cela ne doit pas justifier l'absence de politique. Les directions syndicales pourraient et devraient préparer les luttes futures, y préparer les travailleurs politiquement, moralement. C'est en étant ferme et déterminée elle-même qu'elle pourrait redonner confiance aux travailleurs. À une petite échelle, et avec des limites étroites sur lesquelles je ne reviendrai pas, les confédérations ont montré en 1995 contre Juppé et en 2009 contre Sarkozy qu'elles avaient les moyens de mobiliser les travailleurs, qu'elles savaient le faire, étape après étape, quand elles le voulaient. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel. Alors que la crise est autrement plus grave et que la nécessité d'offrir des perspectives aux travailleurs est indispensable. Non seulement la manifestation du 9 octobre, la première en cette rentrée sociale, n'est appelée que par la CGT, sans que les deux autres grandes confédérations ne s'y associent, mais il y a en plus des appels à des manifestations différentes, par exemple pour les retraités ou pour les cheminots. On organise la dispersion avant même qu'il y ait réellement un mouvement. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la teneur du langage des dirigeants syndicaux qui reprennent le discours des patrons sur la compétitivité, par exemple, et autres balivernes. Que le gouvernement reprenne les arguments du patronat, c'est dans l'ordre des choses. Mais les dirigeants syndicaux qui le font montrent clairement qu'ils ne sont pas dans le camp des travailleurs, mais dans celui de la classe capitaliste. La direction de la CGT elle-même appelle à manifester le 9 octobre pour une nouvelle politique industrielle. C'est un langage à double sens, choisi pour donner aux travailleurs l'illusion qui sont appelés à manifester pour sauver leur emploi, mais qui peut servir aussi au gouvernement pour justifier les subventions versées au patronat au prétexte d'aider à l'investissement industriel. Cette politique industrielle-là, tous les gouvernements l'ont pratiquée, mais plus ils déversent de milliards en subventions de toutes sortes, plus la courbe du chômage monte. Et il ne peut pas en être autrement tant que l'économie est en crise, que les marchés ne s'élargissent pas suffisamment pour assurer aux capitalistes le taux de profit qu'ils exigent. Tant que la spéculation financière rapporte plus aux grands groupes que la production industrielle, l'argent ira à la spéculation, y compris l'argent donné par l'État. Et cela continuera ainsi, à moins d'obliger les capitalistes à investir par la coercition, ce qu'aucun gouvernement n'envisage sérieusement. Alors cette réalité-là, les travailleurs la connaissent. Alors ce n'est pas brandir comme mot d'ordre la politique industrielle, brandir comme mot d'ordre la politique industrielle n'est pas seulement faux, mais cela revient à démobiliser les travailleurs et même les militants syndicaux eux-mêmes. Avancer des objectifs simples, clairs, dont tous les travailleurs comprennent qu'il s'agit de leur vie, de la vie de leur famille, ne suffit pas en soi pour entraîner la mobilisation. Mais n'agiter que des abstractions comme une nouvelle politique industrielle, dont personne ne sait ce qu'elle signifie, ni en quoi elle protège les travailleurs, est en revanche un moyen de les démobiliser. Pour notre part, Lutte ouvrière appelle ses militants à tout faire pour convaincre leurs camarades de travail à venir nombreux le 9 octobre et à défendre les revendications qui leur tiennent à cœur, à faire entendre leurs exigences vitales, comme l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, la garantie du salaire contre l'inflation par l'échelle mobile des salaires, la défense et le développement des services publics. Même si cette manifestation est un succès, elle ne changera pas le rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Pour le changer, il faudra que l'ensemble des travailleurs soient mobilisés, qu'ils fassent preuve d'une combativité et d'une détermination telle que la peur passe dans le camp de la bourgeoisie. Mais le 9 octobre doit être une étape, un premier pas, qui redonne confiance à la fraction des travailleurs décidés à ne pas se laisser faire, y compris sous un gouvernement socialiste. Cette manifestation sera au moins la démonstration qu'il y a au sein de la classe ouvrière une minorité qui n'est pour le moment peut-être pas à même d'entraîner derrière elle la majorité du monde du travail, mais qui, en tout cas, sait que le seul choix pour les travailleurs, s'ils veulent défendre leurs conditions d'existence, c'est de se battre. Alors, ce que j'ai à dire aux militants de la classe ouvrière, aux militants syndicaux, comme à tant d'autres qui ne sont pas résignés et qui souhaitent que le gros des troupes de la classe ouvrière se mette en branle, c'est ne vous laissez pas désarmer par le fait que le gouvernement qui vous porte des coups se réclame de la gauche. Combien de militants ouvriers, notamment ceux du Parti communiste, sont restés l'arme au pied sous Mitterrand puis sous Jospin et l'ont amèrement regretté par la suite? Et combien d'entre eux ont même cessé d'agir? Eh bien, il ne faut pas recommencer cela. Notre avenir, notre sort ne dépend pas du gouvernement, mais de nous-mêmes, de notre force collective et de nos mobilisations. D'en haut, pour se protéger, pour défendre notre emploi, notre salaire, nos droits vitaux, nous devons nous défendre nous-mêmes, nous regrouper, nous organiser, faire jouer notre force collective. Nous ne sommes pas démunis. Nous avons la force du nombre. Nous sommes indispensables au fonctionnement de l'économie. Sans travailleurs, rien ne peut se faire. L'argent ne rentre pas, il n'y a pas de profit pour la bourgeoisie. C'est nos divisions, notre manque de conscience collective, notre faible combativité qui fait la force du patronat. Au pied du mur, les travailleurs essayent de se défendre. Les travailleurs de Fralib, Gémenot, se démènent depuis bientôt 2 ans contre les licenciements. C'est aussi le cas des travailleurs de Ford à Blanquefort. C'est le cas depuis plusieurs mois des travailleurs de Peugeot. Chacun se bat avec un seul et même objectif, préserver leur emploi. Eh bien, pour gagner, pour obtenir la garantie de conserver son emploi, il faut que le combat des Fralib, des PSA, des Ford, des Arcelor devienne un seul et même combat, qu'il devienne notre combat à tous. On ne gagnera qu'en s'y mettant tous ensemble. Oui, il faut renouer avec les luttes collectives, amples, massives, débordantes. Renouer avec les meilleures traditions du mouvement ouvrier. Celles qui se sont exprimées dans les manifestations et les grèves générales de juin 1936 ou de mai 1968. Beaucoup n'y croient plus et disent que ces luttes font partie du passé, que les travailleurs ne veulent plus se battre, qu'ils ne peuvent plus se battre. Mais combien sommes-nous à en défendre la perspective? Combien y a-t-il de militants pour aider les travailleurs à s'organiser, à s'unir autour de leur objectif de classe? Il manque de partout des militants pour entraîner les travailleurs et pour rappeler aussi que les travailleurs ont combattu dans des conditions bien plus difficiles et ont souvent réussi à faire reculer le patronat. Regardons les mineurs de Marikana en Afrique du Sud. Regardons avec quelle détermination ils se battent depuis plusieurs semaines malgré une répression féroce. La fusillade du 16 août a fait à elle seule 34 morts. Elle n'a pas brisé la détermination des grévistes. À la violence de la répression s'ajoute pourtant l'amertume que cette fusillade a été commandée et exécutée non par la police raciste du temps de l'apartheid, mais par celle du régime né de la chute de l'apartheid. Abandonnée en plus par les syndicats, les mineurs auraient eu bien des raisons de baisser les bras. Mais ils ont continué. Et la grève est devenue contagieuse. Elle s'est étendue à des dizaines de milliers de mineurs d'un bout à l'autre du pays. Et la semaine dernière, après 6 semaines de grève, les mineurs de Marikana ont fini par arracher une augmentation de salaire immédiate de 11 à 22%. Oui, seuls contre tous, ils ont réussi à faire plier un géant du capitalisme. La lutte des exploités n'a jamais été facile. Mais le plus grave pour l'avenir est surtout qu'il n'existe pas de parti qui représente clairement et jusqu'au bout les intérêts de classe du monde du travail. On voit bien que le parti qui porte encore l'étiquette socialiste est un parti bourgeois, comme les autres. Quant aux partis comme celui de Mélenchon ou comme le Parti communiste qui prétendent représenter une alternative par rapport au Parti socialiste, ils défendent des politiques guère différentes, parce qu'ils se placent tous dans le cadre de l'économie et de la société capitaliste, en prétendant savoir mieux la gérer que les autres. Ils ont abandonné la perspective de combattre cette organisation économique pour la renverser. Et s'ils peuvent avoir un langage un peu plus radical dans l'opposition, lorsqu'ils seront au gouvernement, ils feront, comme le Parti socialiste, ce que la grande bourgeoisie leur demandera de faire. Ce n'est pas un raisonnement sur l'avenir, puisque le Parti communiste a déjà participé au gouvernement à plusieurs reprises et il s'est toujours aligné sur la politique du Parti socialiste. Quant à Mélenchon, porte-voix du Front de gauche, il a été, comme ses amis de la direction du Parti socialiste, ministre. L'ambition de l'équipe qui l'entoure est certes de prendre la place de l'équipe qui gouverne, mais ce n'est pas pour renverser le système, c'est pour le servir. Alors oui, il manque un parti qui représente les intérêts politiques de la classe ouvrière et qui ne représente que ces intérêts-là. Ce parti doit avoir clairement pour objectif la prise de pouvoir par la classe ouvrière elle-même, par les organisations démocratiques construites et contrôlées par elle. Ce parti doit œuvrer pour l'expropriation de la bourgeoisie et pour l'avènement d'une société sans exploitation, sans classe. Pour l'avènement d'une société communiste. Le règne de la bourgeoisie n'a pas d'avenir. On nous dit que les riches et les capitalistes sont indispensables, que ce sont eux qui créent les richesses et les emplois. Et il faut toute la capacité de mensonge de la classe privilégiée, sa mainmise sur les médias, sur l'éducation, sur tous ceux qui forgent l'opinion publique pour faire des exploiteurs et des parasites une classe sociale indispensable. La bourgeoisie prospère de plus en plus du pillage des caisses de l'État et de la spéculation financière. Elle ne développe plus la production. Son économie crève parce qu'il y a trop d'argent, trop de richesses, trop de moyens pour les produire. L'abondance est là, à portée de main, mais c'est la misère, des privations sans fin pour la majeure partie de l'humanité. Bien d'autres que les communistes révolutionnaires dénoncent les folies du capitalisme financier, avec plus ou moins de sincérité. Pour beaucoup, ce n'est que discours démagogique de politiciens. Ceux qui sont de bonne foi vont jusqu'à redécouvrir Marx et à le citer à l'appui de leurs dénonciations. Mais même les plus sincères ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne posent pas la seule question qui vaille : quelle force sociale a la capacité de mettre fin au capitalisme ? Marx n'était pas seulement un critique pénétrant de l'économie capitaliste, d'une toute autre valeur que l'armada d'économistes, chantre du caractère irremplaçable de l'économie capitaliste, même lorsqu'il se propose de la réformer ou de l'améliorer. Non, Marx était avant tout un révolutionnaire qui ne considérait pas la classe ouvrière comme une classe sociale à plaindre ou à sauver des conséquences désastreuses du capitalisme. Il voyait dans la classe ouvrière la seule force sociale capable de renverser le monde, de renverser ce monde. Ce sera déjà pas mal. L'apport principal de Marx pour son époque, comme pour les générations suivantes, a été cette capacité, justement, de voir dans la classe ouvrière la seule force révolutionnaire, au sens véritable, c'est-à-dire capable de transformer l'économie et la société de fond en comble. Et cette conviction a été la base de sa politique, pas seulement pendant les périodes d'explosion révolutionnaire, où c'était évident, mais aussi lors des périodes de recul, lorsque les travailleurs subissaient passivement les coups. Aujourd'hui, face au pouvoir du capitalisme prédateur, il n'y a pas d'autre alternative que le pouvoir de la classe ouvrière. C'est cette idée-là que nous défendons dans toute notre propagande, c'est sur cette idée-là que doit être basée toute notre politique. On nous traite de sectaires parce que nous ne voulons pas noyer ce parti pris fondamental dans une des nombreuses alliances ou coalitions de partis prétendument de gauche ou de la gauche de la gauche. Sectaires, nous ne le sommes pas, car nous ne refusons jamais de participer à des actions qui peuvent être un tant soit peu utiles pour la classe ouvrière, y compris aux côtés d'organisations politiques ou syndicales dont nous ne partageons pas les idées. Mais jamais au point de sacrifier nos idées, notre option politique fondamentale, sur l'autel d'une alliance éphémère avec des formations politiques ou d'hommes dont nous savons qu'ils ne sont pas dans le camp des travailleurs et qu'ils trahiront inévitablement. Ayant pour perspective la prise et l'exercice du pouvoir par la classe ouvrière. Et ce parti n'est pas seulement nécessaire pour des situations révolutionnaires, c'est-à-dire pour une période où la classe ouvrière, dans son énorme majorité, a décidé à prendre son sort en main. Il est aussi nécessaire pour mener les combats d'aujourd'hui et de demain. Car face à la crise et à la guerre de plus en plus violente que mène la bourgeoisie contre les exploités, il faut opposer une politique qui arme les travailleurs et renforce leur position. Les dernières élections ont illustré à quel point le monde du travail est dispersé entre une multitude d'options qui recouvrent tout l'éventail politique. On sait que les idées de droite, voire d'extrême droite, sont présentes, y compris dans les rangs des travailleurs. Et on sait les préjugés qu'elles véhiculent, et même les plus stupides, les plus réactionnaires. Si la crise s'aggrave, les travailleurs seront confrontés à l'offensive de plus en plus violente du patronat, mais ils seront aussi confrontés à des problèmes politiques. Il n'est pas exclu que le Front National ou une autre force d'extrême droite aux prétentions fascistes en vienne à intervenir physiquement contre les étrangers, comme c'est déjà le cas en Grèce ou en Hongrie. Entre l'extrême droite et le mouvement ouvrier conscient, entre eux et nous, c'est une course de vitesse qui se joue. Mais si la classe ouvrière relève la tête, si elle rend les coups et offre des perspectives à toute la société. Alors, les millionnaires démagogues à la Le Pen seront ramenés au petit cercle nostalgique de l'Algérie coloniale, des nostalgiques de Vichy ou des catholiques intégristes, c'est-à-dire au petit cercle de famille dont ils n'auraient jamais dû sortir. Aucun lien avec le système existant, qui ne soumette pas sa politique à des préoccupations électorales ou à des alliances avec tel ou tel camp politique de la bourgeoisie. Il faut un parti que rien n'attache, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, à l'ordre social existant, et qui non seulement ne craigne pas de mener jusqu'au bout le combat contre la classe capitaliste, mais qui ait au contraire explicitement cette volonté-là. Et il faut bien sûr que ce parti en soit un. C'est-à-dire qu'il regroupe un grand nombre de militants et qu'il soit présent dans tous les quartiers populaires, dans toutes les entreprises, dans tous les aspects de la vie sociale. Un tel parti ne pourra agir réellement et efficacement que si la classe ouvrière, dans sa grande majorité, a envie d'agir et de mener les luttes nécessaires. Car aucun parti ne peut remplacer l'action collective de millions de femmes et d'hommes. Mais le rôle de ce parti et de défendre des idées, une politique pour les travailleurs, de les populariser en permanence bien avant que les luttes s'engagent. Son rôle, c'est de s'opposer à toutes les variantes de la politique de la bourgeoisie, même celles qui se veulent de gauche, voire à la gauche de la gauche. Il ne sert à rien de déplorer l'absence d'un véritable parti communiste révolutionnaire. Il faut s'atteler à la tâche et il faut créer ce parti capable de mener, dans l'intérêt de la classe ouvrière et de la société, les combats d'aujourd'hui, mais aussi se préparer et s'organiser pour les grandes luttes de demain, pour changer la société de fond en comble et construire une société communiste. Les perspectives des travailleurs sont grandes, elles sont enthousiasmantes, à nous de les faire vivre parmi les travailleurs avant qu'elles ne deviennent réalité.